Et oui, hein, ça y est, on y est, dernier Magecko de la saison 9. Ce n'est qu'à nous revoir, on va se retrouver tous ensemble, même avec Bernadette. Ça sera le 31 août, même jour, même heure. Mais une nouvelle saison particulière, le Magecko entrera dans sa 10e année. Alors en 2010, je me souviens, naissance de l'émission, il fallait lui trouver un nom à ce bébé. Et on n'arrête pas l'écho, franchement, ça n'était pas mon préféré. Ne me demandez pas ce que j'avais en tête de mieux, je ne m'en souviens pas. Et surtout depuis, le titre s'est imposé. Regardez, encore un été où on se quitte en se disant « Eh, rendez-vous à la rentrée, on aura plein de choses à discuter !» Le projet de loi de finances, la réforme de la retraite, enfin plutôt les réformes, hein, la petite et la grande. Et puis il y aura aussi le G7 sur les inégalités, l'assurance chômage, mais bien sûr. Finalement, on n'arrête pas l'écho, parce que c'est vrai, on n'arrête pas l'écho, même en été. On n'arrête pas l'écho aussi parce que le jeu de mots avec écho, CHO, bien sûr, c'est rigolo. Et même, on n'arrête pas l'écho pour les quelques-uns qui, à chaque fois, pensent à Jean-Yann, à son livre « On n'arrête pas la connerie ». Allez, hein, faites pas les timides, je sais, vous nous l'avez écrit et nous aussi, on a eu le temps d'y penser. D'ailleurs, l'humour, la fantaisie, la chasse aux imbécilités. Si le Magecko parle d'écho avec cette petite musique-là, nous, avec vous à nos côtés, ça nous va.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue, cette émission est réalisée par Lucie Lemarchand, Maud Ventura est attachée de production et c'est Stéphane Beaujat qui nous accompagne ce matin à la technique. Bonjour à vous les débatteurs, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Oui, c'est de ce côté-là, moi. Bonjour.
Ah mais ça, alors, on peut aussi nous regarder, heureusement, avec la vidéo maintenant, oui. Et je me tourne donc vers Emmanuel Lechypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Et je vous dis droit dans les yeux, bonjour à tous Alexandra.
Bonjour à tous Alexandra, c'est pas banal. Ce matin, il fait chaud. Le climat, la France épinglée. Qui doit en faire plus? Ce sera notre débat. La canicule, la pollution, les Français qui changent leurs habitudes. Nous sommes de plus en plus nombreux à pédaler. Alors, ben, le volet économique, hein. Peut-on parler de renaissance pour l'industrie du cycle? Peut-on carrément aujourd'hui imaginer un vélo 100% français? L'imagination, notre reporter Anaël Verzo, ben, c'est son rayon, vous l'entendrez. Le défi climatique change-t-il le modèle économique du tourisme, du goût pour le vélo à la honte de l'avion? Ça, c'est une tendance qui nous vient de Scandinavie. Ce matin, le fondateur du Guide du Routard sera notre invité. Nous avons rendez-vous avec Philippe Glohagen qui sera dans ce studio vers 9h45. Et juste avant le clap de fin, ma vie au boulot, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
C'est Laurence qui vous a écrit. Dernière question de la saison 9.
Oui, une maman inquiète. Sa fille Lou a 16 ans et elle n'arrive vraiment pas à trouver un boulot. Comment fait-on quand on a 16 ans?
Eh ben, c'est déjà pas mal si elle cherche un boulot à 16 ans.
Mais il faut trouver,
pour
Alexandra.
Pour l'été. Allez, réponse pour Laurence et sa fille Lou juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat, la France et le climat. Grosse ambition, petites actions.
Ce qu'on constate dans le rapport, c'est finalement que les émissions de gaz à effet de serre baissent.
Benoît Le Guay,
ça c'est la bonne nouvelle,
membre du Haut Conseil pour le climat.
Mais elle ne baisse pas assez vite pour atteindre les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés de neutralité carbone à horizon 2050. Les déterminants des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas non plus alignés avec l'accord de Paris. Pour le dire de façon lapidaire, la décision publique ne prend pas en compte les objectifs que se sont fixés la France en termes climatiques.
Ça fait 30 ans qu'on l'entend et que rien ne change ou presque dans la façon dont on alloue les crédits aux différents investissements.
Gilles Dansart.
Et d'ailleurs, les collectivités locales, elles, n'ont pas attendu.
Spécialiste des transports et directeur de Mobilettre.
Les budgets consacrés aux transports dits propres, alternatifs, ça, ont bondi dans les collectivités locales. Du côté de l'État, on a plutôt réduit les budgets. Mais au contraire, il faut augmenter les investissements parce qu'il y a une demande sociétale, environnementale des Français.
On paye 30 ans d'inaction.
Pascal Canfin, député européen La République En Marche.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on est entré dans une nouvelle ère, qui est celle de la souffrance climatique. Si on est dans un état d'urgence écologique, donc il faut une mobilisation générale de tout le monde, y compris de ceux dont c'est pas la position historique, comme les promoteurs immobiliers. La bataille du climat, elle implique qu'on s'y mette tous.
Ce qu'il faut bien voir.
Corinne Le Quéré, climatologue et présidente du Haut Conseil pour le climat.
C'est que répondre au changement climatique, ce n'est pas que déployer des énergies renouvelables, mais c'est retirer les appareils qui émettent. Et pour faire ça de manière la plus efficace possible, en fait, la taxe carbone, c'est la moins chère pour l'ensemble de la société. La taxe carbone, ce n'est pas pour remplir les poches de l'État, mais c'est bien pour mettre un prix sur le carbone, parce que le carbone, ça pollue et ça cause des changements climatiques.
C'est la population la plus pauvre
qui est sanctionné.
Denis Astagnaud.
Il y a une statistique qui dit...
Membre de l'association, 40 millions d'automobilistes.
En Seine-Saint-Denis, ça concerne les vignettes interdites, donc. Ça concerne 70% des véhicules. Mais dans les départements plus riches, en Haute-Seine, par exemple, ça concerne 48%. Donc c'est évidemment une mesure anti-pauvre.
On ne peut pas avoir à la maison...
Emmanuel Macron...
Des citoyens, une jeunesse qui nous dit « vous devez faire plus », ce qui est vrai.
Président de la République...
On ne peut pas avoir des scientifiques qui nous disent « vous ne faites pas assez », ce qui est vrai. Et de l'autre côté, une communauté internationale qui dise « on verra quand on aura le temps, on n'y croit pas tellement ». Finito,
ça c'est le message d'Emmanuel Macron. Nous devons aller beaucoup plus loin sur le climat. À l'instant, depuis Osaka, le G20, on en parlera tout à l'heure. Alors l'ambition, c'est celle de la COP21 en 2015, et c'est encore cette semaine, en juin 2019, l'Assemblée nationale, nos députés, qui votent l'urgence écologique et climatique. Et puis, il y a les actions, et là, Christian Chavagneux, ce Haut Conseil pour le climat qui est nouveau, vous allez nous le dire, il vient de remettre son premier rapport, et c'est la claque quand même, hein.
Oui, c'est la claque. C'est une bonne dizaine de spécialistes. C'est tous des spécialistes du climat, de l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture. Donc, c'est plutôt un beau haut conseil qui est intéressant. Et il nous dit quoi? Alors, évidemment, on savait que la France était plutôt en retard, mais on a quand même eu le discours de politique générale du Premier ministre qui nous a dit « Maintenant, ça y est, je suis à la tête d'un gouvernement tout vert ou repeint en vert. » Et là, c'est la question que pose le rapport du haut conseil qui nous dit qu'on est très, très, très loin de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, le gouvernement, si vous voulez vraiment être vert, va falloir que vous fassiez beaucoup d'efforts, parce que vous en êtes capable, c'est ça le message.
C'est un manque de cohérence, Emmanuel Le Chypre, là, ce Haut Conseil qui n'existe que depuis novembre. Hein. Il nous adresse un message, où, oui, on manque de cohérence et l'objectif de neutralité carbone en 2050, il est loin.
Non mais c'est de la lâcheté absolue, c'est-à-dire que il y en a ras-le-bol, ça suffit. Les rapports, on en a des dizaines. Après, les claques, vous dites, ça nous met des claques, mais ça fait des années qu'on prend des claques. Et puis... on a des nouveaux chiffres alarmistes catastrophiques, on demande des nouveaux rapports qui nous mettent des nouvelles claques. Ah ben là, vous allez voir ce que vous allez voir, on est ouvert, etc. Et il ne se passe strictement rien.
Ah ben là, ils sont d'accord.
Strictement rien.
Emmanuel, ils sont d'accord, les experts avec
vous. Non, mais ce que je veux dire,
vous.
C'est que bon, voilà, c'est très bien de tirer la sonnette d'alarme. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est,
voilà. Bah, on va en parler.
Donc là, on est en dessous, effectivement, de tous les objectifs. Enfin, on est en dessous de tout, même, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, tous les objectifs, si on prend ce qui était émissions de chaque grand secteur, on est en retard. Si on est sur la part des énergies renouvelables, ce que ça aurait dû être aujourd'hui, on est encore évidemment en retard. Sur les économies d'énergie, on est en retard. Bref, on ne fait quasiment rien.
Alors cet objectif de neutralité carbone, Christian Chavagneux, il faut
carbone,
quand même en dire un mot.
Dire, ouais. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit et qu'on consomme, on émet du CO2, mais on en retire aussi de l'atmosphère, soit de manière naturelle, les océans, les forêts, soit de manière artificielle. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui commencent à créer des puits de carbone artificiels pour essayer de le stocker, de le séquestrer dans la roche, voire le transformer pour en faire une autre source d'énergie. La neutralité carbone, ça veut dire qu'on ne pourra pas en émettre plus que ce qu'on peut en enlever. Or, ce qu'on peut en enlever aujourd'hui, la capacité de séquestration de la France, c'est 50 millions de tonnes de CO2. Et aujourd'hui, on en met dans l'atmosphère à peu près 450 millions. Donc vous voyez, l'effort est vraiment extrêmement important. Il est ambitieux parce que ça nous met sur une trajectoire à 1,5 degré de réchauffement. Donc en dessous de l'objectif de 2 degrés dont on nous dit que c'est quand même assez difficile à supporter. Malheureusement, si on le fait tout seul, ça ne suffira pas. Mais la bonne nouvelle, vous voyez, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, un petit peu la Californie, la Nouvelle-Zélande, ça commence à prendre, ça commence à se répandre partout dans le monde. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre.
C'est quand même. Moi, je trouve qu'il y a un petit piège quand même dans cette histoire de neutralité carbone. Avant, on avait ce fameux facteur 4 qui était un objectif clair, divisé par 4, division de CO2. Là, maintenant, vous jouez sur deux leviers en fait. Il y a le levier émission de CO2 et puis il y a la compensation par les fameux puits. C'est-à-dire et du coup. C'est une notion qui est plus floue, je trouve, moi, que la notion de facteur 4. Et c'est notamment
4.
Une notion qui, juridiquement, n'a strictement aucune valeur, qui ne pèse rien. Et ben moi, je trouve que, comme dans tous ces sujets où on vous met non plus un objectif clair, mais un objectif dans lequel vous avez, en gros, un numérateur, un dénominateur, un plus, un moins, etc., on nous embrouille.
Non, on peut avancer des deux. Il faut avancer sur les puits de carbone, comme il faut bien sûr avancer sur la réduction des émissions. Et évidemment, l'essentiel doit se faire sur la réduction des émissions.
Alors justement, on va parler des solutions. quelle solution pour vous, Emmanuel Le Chypre ? Pourquoi, comment mettre la France sur la voie de la transition, puisqu'on comprend qu'elle n'y est pas encore ?
Le sujet, en fait, il n'est pas tellement français sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on peut se flageller, effectivement, à coup de rapport comme ça, en disant qu'on n'en fait pas assez, et il faut le faire. Mais il faut juste rappeler que la France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et que ces émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, elles n'ont jamais progressé quasiment aussi vite qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 2010, on est sur une trajectoire d'augmentation sur la décennie de 35%, comme au cours des années 2000. Donc, les vrais facteurs qui vous font changer de comportement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Parce que la réalité, c'est que on peut accuser les gouvernements de pas en faire assez, on peut accuser les entreprises, les fonds d'investissement, les marchés financiers, etc. La réalité, c'est que c'est nous qui voulons pas changer. C'est que c'est nous qui voulons
changer.
C'est-à-dire
nous, citoyens ?
Nous, citoyens. Et la réalité, c'est qu'il y a que deux choses qui vous font, dans l'histoire, et je dis ça de façon très calme, les deux choses qui vous font changer véritablement de comportement dans l'histoire, politique, démocratique, économique, c'est la dictature et c'est les prix. Voilà. Donc, quand on vous impose des choses, vous changez de comportement. Et quand les prix vous imposent des choses, vous changez de comportement. C'est pour ça que moi, je pense que la meilleure solution, la plus simple, la plus globale, sur le plan théorique, pas à mettre en place, parce que politiquement, c'est compliqué, c'est une taxe carbone. C'est une taxe carbone qui prendra en compte tous les effets négatifs, qui seraient payés par tout le monde, dans tous les pays. Plus d'exemption, plus rien. Et là, vous intégrez, du coup, les prix, des problématiques qui vont vous faire changer de comportement.
Alors, en même temps, vous nous dites c'est la solution, et en même temps, vous nous dites politiquement c'est compliqué. Christian, là, il a un jugement très dur, Emmanuel. Il dit qu'il doit faire les efforts, les citoyens, il a raison.
Non, c'est tout le monde, c'est un problème d'offres. Je pense que si nous, on a des offres de transport qui sont plus vertes, si on a des offres de logement qui sont plus vertes, si on a, voilà, etc., des offres de mobilité qui sont plus vertes, on ira vers ces offres-là. Donc, c'est aussi aux entreprises de changer et à nous offrir quelque chose qui soit un peu plus consistant en termes écolo, sur la taxe carbone. Alors, le Haut Conseil nous dit chaque Français émet à peu près 6,6 tonnes de CO2 dans une année. Donc, mettons la taxe carbone à 100 €. La tonne de CO2, on l'a jamais fait, hein, 100 €. Ça veut dire 660 €, ça veut dire 1,80 € par jour. Est-ce qu'Emmanuel va arrêter d'aller au boulot avec sa voiture polluante si je lui pique 1,80 € par jour ? Il va même pas changer de comportement à 100 € la tonne. Par contre, le pauvre, lui, qui est obligé de se déplacer, si je lui pique 55 € par mois, alors lui, il souffre d'autant plus que, et là on retrouve votre message de tout à l'heure, Alexandra, on a un problème de cohérence. Si en plus, les plus pauvres, je leur pique 55 € pour des raisons écolo, qu'en plus je leur enlève 60 € d'appel, qu'en plus quand ils sont au chômage je leur donne rien, alors à ce moment-là, ça donne les gilets jaunes, voire plus encore de révolution sociale. Donc moi je veux bien qu'on passe tout par les prix, c'est normal, les libéraux, la solution, c'est que ça passe toujours par les prix. Mais aujourd'hui, Macron a complètement plombé le truc, Nicolas Hulot, les élus locaux, les députés sont venus le voir en disant attention, votre accélération du prix de la tonne de carbone en France, ça va poser des problèmes sociaux. Il a dit rien à faire, et le Premier ministre dit rien à faire, on le fait quand même. Voilà, ça nous a donné les gilets jaunes et surtout, ça nous plombe la solution, prix du carbone. Donc, il va falloir trouver autre chose.
Il va falloir le remettre sur la table et le mettre en place autrement avec un accompagnement.
On ne pourra pas trouver autre chose parce que l'histoire qu'il faut qu'on arrête de nous raconter, c'est l'histoire de la transition énergétique, chemin pavé de pétales de rose qui ne coûtera rien à personne et qui ne sera pas douloureux. C'est pas vrai.
Jamais que vous en passiez. Ça, Emmanuel,
mais si, bien sûr que si. C'est ça qu'on nous vend, Christian. On nous vend une transition énergétique qui va créer de la croissance, qui va créer des emplois, de la qualité de vie, etc.
Vrai.
Oui, mais la réalité, c'est que vous passiez par une taxe carbone, par des permis d'émission, par des normes d'isolation, par des normes d'automobile, etc. Tout sera attentatoire à notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'au final, c'est soit le contribuable, soit le consommateur qui paiera. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si vous mettez cette taxe carbone, le but c'est quoi en fait ? Parce que évidemment que ça passera par les entreprises, la finance, etc. Mais c'est que tous les gens qui produisent aujourd'hui, qui extraient du carbone, du gaz, mais qu'on les dissuade littéralement d'utiliser ces énergies-là.
C'est ça le sujet.
Exemple, vous avec cette taxe carbone, vous devez inciter les pays qui produisent du pétrole ou du gaz, ou les entreprises qui produisent du pétrole ou du gaz, à se tourner vers d'autres sources d'énergie.
Ça, par contre, c'est intéressant.
Évidemment.
Alors, allez-y. Christian.
Non, ça, c'est intéressant parce que, en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'on émet, le Haut Conseil nous dit, on émet 6,6 tonnes de CO2, nous, Français, en moyenne, hein, par an. Sauf que, c'est pas ça notre empreinte écologique. Notre empreinte écologique, tout ce qu'on émet, c'est 11 tonnes. Pourquoi ? Parce que, il y a plein de CO2 dans les produits qu'on importe. Et là, la taxe qui est intéressante, me semble-t-il, et là, tous les Français, enfin, une grande majorité de Français la soutiennent, c'est une taxe de protectionnisme vert. Si vous achetez
des
produits,
c'est la taxe carbone aux frontières de l'Europe.
Si vous consommez, si vous produisez avec trop de produits carbonés, à ce moment-là, vous êtes taxé. Ça, c'est une taxe, à mon avis, qui est plus intéressante parce que la taxe carbone française, en dehors du fait qu'elle est plombée politiquement, ce qui fait que si on prend le chemin d'Emmanuel, va falloir attendre 10 ans avant de faire quelque chose. Je pense qu'on peut pas attendre 10 ans avant de faire quelque chose. Et la taxe, il va falloir la remettre dans le débat démocratique, expliquer qu'elle est régressive. Donc, il va falloir la rendre moins régressive. Elle pèse plus.
Régressive.
Ça veut dire qu'elle pèse plus sur les pauvres que sur les riches.
C'est un débat de second rang.
Parce qu'elle est opaque. On sait pas, les gens savent pas ce qu'on fait de l'argent. Et elle est trouée. L'aérien, le maritime, les taxis. Donc, si on veut remettre la taxe carbone, il va falloir remettre ça sur le débat démocratique et dire, attention, l'aérien et le maritime, il faut le taxer. Attention, voilà ce qu'on fait de l'argent. Et la régressivité, on a une belle analyse du Conseil d'analyse économique qui a dit, on devait avoir la taxe carbone à 86 euros à la fin du quinquennat Macron. Qui paierait et qui gagnerait? Et là, vous apercevez que chez les plus pauvres, vous en avez 10% qui sont pas affectés du tout et 10% qui vont perdre 220 euros de pouvoir d'achat. Chez les plus riches, il y a des gens qui vont pas être affectés du tout et des gens qui vont perdre à peu près 500 euros de pouvoir d'achat. Les effets redistributifs sont très complexes et non. Donc, faut les mettre sur la table. Il faut en profiter pour dire, voilà, qui va gagner, qui va perdre. Mais ça va prendre 5 à 10 ans. Et entre temps, les normes, il faut imposer.
Alors, les normes, je dirais que c'est presque encore plus dur que la taxe. Les normes, on dicte, on voit ce qui se passe dans l'industrie automobile. C'est-à-dire que quand vous mettez des normes, ça écrète tout de suite, quoi.
Mais de toute façon, enfin, au final, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, vous renchérissez quelque part, un coût qui sera payé in fine par le contribuable ou par le consommateur. Sur ces problématiques d'inégalité, moi je veux bien, mais prenons par exemple la taxe qui a mis les gilets jaunes dans la rue. Quand vous regardez ce que ça représentait, 3 centimes début 2019, c'était 20 euros par an pour un ménage modeste, un peu plus de 150 pour un ménage plus aisé. Moi, je veux bien que ce soit insurmontable.
C'est un peu plus que ça.
C'était pas beaucoup plus que ça. Le budget, par exemple, énergie des ménages, il est stable dans l'histoire. Vous êtes à peu près, aujourd'hui, vous êtes à 3000 euros sur l'année. Si vous mettez les frais de chauffage, le carburant pour la voiture, etc., c'est 8% de vos dépenses à peu près. Donc voilà. Mais encore une fois, je veux bien qu'on ne puisse pas faire d'efforts. Et c'est ça tout le drame de cette situation, c'est qu'en plus, les efforts que vous faites, ils sont pour des gens qui en profiteront soit ailleurs dans le monde, soit dans les générations futures.
Mais il faut rien faire, Emmanuel. Donc il ne faut rien faire.
Alors. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut faire prendre conscience aux gens que ça va nous coûter cher à nous, à notre génération, et qu'il faudra payer. Si on ne veut pas payer, il ne se passera rien et on va droit à la catastrophe.
Donc c'est une question d'argent.
Mais c'est une question de redistribution aussi pour que ce soit équitable.
Et cette transition énergétique, pour finir sur le sujet, des emplois, une qualité de vie. Est-ce que là-dessus Ça compense pas,
Compense largement. Si la France, elle se met en avant sur ce sujet-là, on devient leader de la transition. Pourquoi vous croyez que les Chinois, ils sont mis à produire de tout ce qui fait l'énergie renouvelable? Parce que va y avoir une demande explosive. Pourquoi les Allemands sont les premiers à dénucléariser? Parce que va y avoir une demande mondiale extrêmement forte. Ces pays ont compris que si on est leader, à ce moment-là, mais non seulement on gagne, mais on gagne énormément et au niveau mondial. Et c'est ça qu'il faut faire.
Allez, d'une phrase, Emmanuel Le Chypre. Il y a aussi les entreprises dans le tableau. Elles ont compris, elles sont en train de comprendre, elles font juste du greenwashing. Est-ce qu'on a une photo ou...
Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si les incitations financières sont telles qu'elles sont obligées d'aller vers des nouvelles technologies, par exemple, j'étais
donc
fasciné par le débat sur Total,
la fourche dans
aux Jeux Olympiques. On peut considérer que les producteurs pétroliers sont des affreux méchants, mais aujourd'hui, c'est eux qui financent aussi la transition et les nouvelles technologies. Moi, la meilleure nouvelle de la semaine, c'est quand même les 477 fonds d'investissement qui représentent 34 000 milliards de dollars, la moitié du capital investi dans le monde, qui disent, voilà, il faut faire quelque chose, il faut aller vers cette transition. On va dire que c'est la bonne nouvelle de la semaine.
Bon, la question du climat, elle est aussi au programme du G20 au Japon, les pays riches et les émergents qui discutent. Ça a été une ambiance particulière, chauffée à blanc par Donald Trump. On file voir ce qui vient juste de se passer à Osaka.
G20 首脳会議がまもなく大阪で開幕します。これに先立って今朝日米首脳会談が行われ
Voilà. Bonjour Dominique André.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter au G20. Ce matin, trois informations importantes pour l'économie de la planète. On va commencer donc par le climat. Nous craignions qu'il n'y ait un recul. Et finalement, Dominique, non.
Oui, parce que le G20 est tombé d'accord sur le climat sans les États-Unis. Et on dirait une fois de plus, parce qu'en fait, lors des deux derniers sommets en 2017 à Hambourg et à Buenos Aires en 2018, eh bien, c'était déjà le cas. Mais il a fallu quand même de longues négociations très difficiles, interrompues la nuit dernière, reprises au petit matin pour faire plier la délégation américaine qui a tenu un langage dur durant toutes les discussions, a fait savoir l'Élysée. En fait, jusqu'au dernier moment, les États-Unis ont essayé de faire pression sur quatre grands pays, le Brésil, la Turquie, l'Australie et puis l'Arabie Saoudite, pour qu'ils s'alignent sur la position américaine. La stratégie des États-Unis est que d'autres pays quittent l'accord de Paris, comme l'a fait Donald Trump en fait en 2017. C'est une victoire personnelle pour le chef de l'État français qui a mené cette bataille depuis son arrivée au Japon il y a 4 jours. Mais c'est surtout la victoire des pays européens qui montre qu'unis, ils peuvent l'emporter contre Donald Trump.
Alors la deuxième information d'Osaka, c'est la trêve dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Là encore un bras de fer et c'est la trêve.
Oui, et dans le langage des climatologues, on dirait une accalmie légère, Alexandra. En fait, la réunion a duré 1h30 environ. Donald Trump et Xi Jinping ont donc décidé de faire une pause. Les États-Unis renoncent à imposer de nouveaux tarifs douaniers à l'entrée des produits chinois aux États-Unis sur 300 milliards de dollars de marchandises. Les deux pays reprennent les négociations qui avaient été interrompues brutalement le mois dernier. Les navettes entre Washington et Pékin vont recommencer. Les marchés boursiers seront donc rassurés momentanément, les entreprises aussi, mais des experts en Chine ne croient pas à un accord sur le long terme, car la guerre commerciale, on le sait, est aussi une guerre technologique et il faudra voir comment le dossier Huawei sera traité.
Et enfin Dominique, ce que nous retenons ce matin du G20, c'est une photo. Les dirigeants européens et ceux des pays du Mercosur réunis, ils viennent de conclure un accord de libre-échange, ça faisait 20 ans qu'ils en discutaient.
Ouais, et du coup, c'est un accord commercial sur le fond, donc entre l'Union européenne et les pays membres du Mercosur. Alors, on rappelle que c'est le marché commun de l'Amérique du Sud, qui regroupe notamment l'Argentine et le Brésil. Et c'est donc un accord qui a un lien avec le climat, car Emmanuel Macron a bien expliqué ici à Osaka qu'il ne signerait plus d'accord commercial avec un État qui ne soutient pas l'accord de Paris sur le climat. Or, durant le G20, les États-Unis ont fait pression sur le Brésil pour qu'il s'aligne sur la position américaine. Alors, Emmanuel Macron, qui tient une conférence de presse en ce moment, vient tout juste de déclarer il y a quelques minutes que la France sera tout de même vigilante sur le suivi de cet accord, qui doit désormais être ratifié par chacun des États membres de l'Union européenne et puis par le Parlement européen.
Et du côté des agriculteurs, Dominique André, en France en tout cas, il y a déjà des réactions inacceptables. C'est même l'éleveur et nouveau député macroniste Jérémy Decerle qui dit que c'est inacceptable ce matin. Merci à vous en direct du G20 à Osaka, Dominique André. Merci à Nicolas Mathias pour la liaison. Et puis merci à vous les débatteurs Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre. Dans la prochaine demi-heure, notre invité, c'est Philippe Glouhagen, le fondateur des Guides du Routard. Et Christian, Emmanuel, est-ce que vous repartez en covoiturage ce matin comme d'habitude?
Ah, absolument.
Vous avez déjà pensé au vélo?
Emmanuel, non, on habite un peu loin là. On habite un peu loin. Quand même.
Et puis ça avec va. La canicule, ça se débat. Hein. Mais depuis 3 ans, en tout cas, le souci de polluer moins, de dépenser moins, d'être moins dépendant des normes, on en parlait. Voilà qui a donné un nouveau souffle aux fabricants de bicyclettes, des fabricants français. Vous voulez entendre l'histoire, bien sûr. Alors, enfilez vos shorts, les débatteurs. Il va falloir pédaler sec pour coller au peloton et suivre notre reporter Anaël Verzo.
Alors je me trouve à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine en banlieue parisienne et là je me trouve juste devant la boutique d'Alex Singer. Alex Singer, c'est un artisan, un grand artisan du vélo qui travaille le vélo depuis plus de 80 ans. Vive la bicyclette, voici le printemps. Et des affiches, des photos de vélos, de cyclistes. Très joli atelier.
Bonjour monsieur, enchanté Anaël.
Les magnifiques votre boutique. Hein. C'est des vélos que vous assemblez, quoi, c'est ça?
Non, on fabrique.
Ah, vous les fabriquez?
On fabrique l'entièreté du vélo.
Votre prénom, c'est quoi?
Olivier.
Olivier. Vous faites ce métier depuis combien de temps?
Bon, disons que j'ai eu d'autres métiers dans ma vie, quand même. C'était surtout mon père qui était la cheville ouvrière, enfin, pas le fondateur, parce que le fondateur, c'est Alex Singer. Donc, après, c'est mon père qui a été l'âme de la boutique pendant Il a commencé à travailler ici en 1944 jusqu'à 2009. Voilà.
Ah oui, d'accord, c'est une histoire ancienne.
J'ai toujours traîné dans ses jambes, on va dire. Passionné de vélo. Donc là, on fabrique par soudure, par la travail du métal, soudure, polissage. Ça, après, ça va être chromé, ça va faire des porte-bagages.
Petit coup de chiffon.
Tant qu'à faire, on essaye de les faire beaux. Mais au préalable, on les fait surtout très bons.
Également pour le choix des matériaux, j'imagine. Voilà. Vous les faites venir d'où, du coup ? Enfin, quel est le...
Du monde entier. Tous les composants, on essaie de privilégier, bien évidemment, la production française. Malheureusement, cette production, elle a complètement périclité. Mais bon, on a des partenaires au Japon, principalement. C'est-à-dire un vélo comme ça, qui date des années 80-90, on va dire 100% du matériel était fait en France. Les pédales, les manivelles, les dérailleurs, les freins, la dynamo, la selle, la tige de selle, le guidon, tout était fait en France. Maintenant, un vélo comme ça, il n'y a plus rien qui est fait en France.
Ah,
il y a le pédalier qui est encore fait en France.
On ne fait plus de vélo 100% made in France en France ?
Non, 100% made in France en France, non. Puisqu'il n'y a plus de production de ces pièces qui nous faisaient qu'on pouvait les faire un vélo 100% français.
Et quand est-ce qu'il y a eu le virage, selon vous ?
C'était un virage progressif. Ça a été dans les années 80.
Dans les années 80, la mondialisation et la production qui part en Asie. Et pourtant, une dizaine de fabricants français a résisté. Ils sont toujours là aujourd'hui. Comment ? Eh bien, c'est grâce à l'Europe. Voilà ce qu'a découvert Anaël Verzo dans son reportage et vous allez l'entendre. Ensuite, le rêve d'un vélo 100% français, est-ce à nouveau possible un jour ? Est-ce que l'engouement actuel pour le deux roues, que ce soit par passion ou par raison, peut faire renaître toute une industrie ? Là, comme d'habitude, il nous faut des chiffres, il nous faut des usines. Regardez Patrick Guignard et sa PME bretonne Velox qui fabrique des pièces détachées, des roues, des pédaliers, des plateaux. Le chiffre d'affaires grimpe en flèche, le Made in France repart. Mais jusqu'où ?
Tap, 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 tap. Patrick Guignard, je vais vous laisser vous présenter.
Je suis le patron de la société Velox. On est numéro un en France de la roue basique. C'est pas la roue carbone, mais c'est la roue du vélo Monsieur Tout le Monde. Donc c'est une société que j'ai rachetée il y a 8 ans maintenant, qui faisait 1,4 million de chiffre d'affaires. Maintenant ils font 3 millions de chiffre d'affaires. Il y avait 7 personnes. Maintenant nous sommes 25. Donc c'est un marché qui est en train de se développer. L'avantage de la roue, pour moi, en tant que fabricant français, c'est que c'est beaucoup de volume et ça prend beaucoup de place dans un conteneur si ça vient de Chine. Donc vous avez le coût du transport qui est beaucoup plus cher que le prix de la roue. Donc c'est plus facile de fabriquer des roues en France avec du matériel français parce que je me fournis par exemple les jantes et les rayons chez la société Maquin qui est juste à côté de Saint-Étienne et ça nous permet de faire un peu des roues à la demande.
Patrick Guignard, est-ce qu'on pourrait avoir un vélo 100% made in France aujourd'hui ?
Ah, c'est dans nos rêves à tous. On aimerait bien avoir un vélo 100% made in France. Il y a certaines pièces qui ne viendront pas de France, c'est évident.
Lesquelles ?
Vous avez la partie frein qui est fabriquée quand même en général en Asie ou au Japon.
Est-ce que vous pourriez faire chez Velox ou dans une autre de vos usines les freins qui aujourd'hui viennent du Japon, est-ce que vous pourriez les fabriquer, vous ?
Oui, c'est possible. Tout est possible. La seule chose, c'est à quel prix ? Si je suis 50% plus cher que le marché, donc j'aurais fabriqué des freins, je les aurais en stock, je les compterais tous les jours, mais je n'en vendrais pas un seul.
Est-ce que vous avez des signes qui vous font penser que l'activité va se développer encore ?
Il y a plein de signes. L'environnement. Et quand je vois le développement, par exemple, dans nos amis belges, où il y a 50% des produits maintenant aujourd'hui qui sont des vélos à assistance électrique.
50%
Oui, 50%. Je me dis qu'en France, aujourd'hui, le marché du vélo est autour de 2 700 000. Si on fait 50% de 2 700 000, ça fait 1 350 000. Aujourd'hui, on n'est qu'à 338 000, disons, en 2017, de vélos vendus. Il y a une belle progression à faire et c'est très bon pour le marché.
Aujourd'hui, en France, on vend 338 000 vélos électriques par an. Ce n'est que 13% du marché. Ça peut paraître peu, mais pour Virgile Caillé, de l'Union Sport et Cycle, le vélo électrique, c'est la carte à jouer de l'industrie française du vélo.
Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la tendance, une progression considérable, et surtout regarder la valeur. Parce que le vélo assistance électrique représente aujourd'hui 13% en volume, mais déjà 40% en valeur. Le prix moyen d'un vélo en France, on est à peu près 300 euros. Donc c'est un prix moyen relativement faible, avec évidemment des grandes disparités selon que l'on soit sur un vélo d'entrée de gamme ou sur un vélo très technique, bien entendu. Mais au bout du compte, le prix moyen est de l'ordre de 300 euros. En revanche, si on analyse uniquement le segment de marché qui concerne les vélos assistance électrique, le prix moyen est d'un peu plus de 1500 euros. Donc vous le voyez, beaucoup de technologies embarquées, des produits à forte valeur ajoutée, et en plus une technologie européenne, voire française, ce qui est extrêmement intéressant pour dynamiser cette spécifique industrie du cycle qui vit actuellement des jours nouveaux en France. Et les perspectives que l'on a par rapport aux autres pays voisins et à la tendance nous amène à un nombre probablement d'un million de vélos assistance électrique d'ici 2024.
Le fabricant numéro un de vélos en France, c'est la Manufacture du Cycle qui se trouve à Machecoul, à côté de Nantes. Il assemble 2300 vélos classiques et 500 électriques dont les pièces viennent d'Europe et d'Asie. David Jamin, son directeur général, croit au renouveau de l'industrie française, d'autant plus que dans ce domaine, l'Europe n'est pas naïve, elle est même protectrice.
Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment à ce jour de tissu industriel pour faire 100% des composants venant de France.
Et est-ce que pour autant ça peut entraîner un tissu industriel français? Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'assembleurs, plus de fabricants français pour le vélo électrique?
Forcément. C'est-à-dire que ce qui est important, me semble-t-il, dans notre industrie du cycle, c'est que depuis la fin des années 90, il y avait la mise en place par l'Union européenne des taxes anti-dumping contre la Chine. On ne peut pas avoir plus de 60% de composants qui viennent de la Chine et des pays qui sont soumis à l'antidumping.
Pour un vélo.
Et c'est extrêmement important parce que ça permet justement d'aider, d'accompagner la localisation. Et depuis l'année dernière, et avec une officialisation en janvier 2019, il y a une taxe sur le vélo électrique parce que il a été remarqué depuis 2-3 ans qu'avec l'essor du vélo électrique en Europe, eh bien, les Chinois profitaient du fait qu'il n'y ait aucune taxe et venaient très fort sur ce marché, avec des importations qui augmentaient très très vite. Et la crainte de tout le monde, ça a été que en fait, fasse disparaître l'industrie du cycle sur le vélo électrique en Europe. Et c'est pour ça qu'à l'instar de la première taxe qui est historique, a été mise en place cette deuxième taxe sur le vélo électrique.
D'après vous, d'ici à combien de temps on pourrait fabriquer un vélo électrique 100% français?
Je ne sais pas franchement vous répondre. Par contre, ce n'est clairement pas dans un an ou deux ans. Si on regarde déjà simplement les batteries, il y a d'autres industries qui sont beaucoup plus puissantes que le cycle aujourd'hui, comme l'industrie automobile qui investit des milliards. Ils parlent déjà de plus de 5 ans. Donc nous, je pense pas qu'on ira beaucoup plus vite. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre des parties de technologie sur les batteries. Il y a peut-être des choses qui sont faisables, disons, dans les 2-3 ans. Quant à la fabrication du cœur de la batterie, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a des projets en Europe. Je sais pas quand ils sortiront vraiment. On ne voit pas de choses dans les 2-3 ans.
Il y a la demande, il y a la protection accordée par l'Europe à ses industriels. Et qu'est-ce qui pourrait encore faire accélérer le secteur? Frédéric Errand est économiste des transports.
L'histoire nous enseigne que c'est surtout la modération de la circulation automobile, c'est-à-dire la réduction de la vitesse des voitures et du volume du trafic qui encourage la pratique du vélo. S'il y a en plus des aménagements cyclables, évidemment, ça favorise encore plus l'usage. Il faut que ces aménagements cyclables prennent de la place à la voiture. Et ainsi, on fait d'une pierre deux coups, on réduit la place de la voiture tout en sécurisant encore plus les déplacements à vélo.
Le vélo 100% français, on en est loin, mais l'industrie reprend des couleurs. C'était le reportage d'Anaël Verzeau.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'auteur le plus vendu en France vient d'entrer dans ce studio. Alors le plus vendu peut-être après Astérix, il va nous dire bonjour Philippe Glohagen, le patron des Guides du Routard.
Bonjour, avec tout le respect que j'ai pour Astérix parce qu'il est breton, Astérix vend beaucoup plus que le Guide du Routard. Worldwide, édition
mondiale,
étrangère confondue.
D'accord. Et vous, c'est 2 500 000 exemplaires?
2 millions 5, 2 millions 6.
Alors, j'ai lu qu'il y a 20 ans, vous aviez tenté un guide sur le cyclotourisme, puisqu'on parlait de bicyclette, et que ça avait été un flop complet.
Alexandra, vous êtes incroyable, vous travaillez vos émissions, bravo, je l'avais complètement oublié et c'est vrai. On avait sorti un guide avec un grand renfort, l'aide de la ville de Paris, Paris Vélo, et ça n'a pas marché.
Et aujourd'hui ?
Et maintenant, nous avons une collection depuis 3 ans sur les régions. Donc, on a abandonné Paris parce que Paris ne voulait pas de nous. Et c'est une collection qui marche très fort. Nous avons 6 titres. C'est des titres à 50, 60 000 exemplaires. Et nous en sortons 2 guides par an. Et là, c'est une décision de l'Europe. C'est l'Europe qui m'a demandé de faire ces guides. Vous savez qu'ils gèrent les grands circuits à vélo européens. Donc, vous avez Vélodyssée qui fait Roscoff, Hendaye. Vous avez le Val-de-Loire qui est un bijou, surtout qu'il ne fait pas si chaud sur le Val-de-Loire, en tout cas un peu moins que dans le Midi. Et ces collections montrent les itinéraires à vélo, bien entendu, mais tous les endroits où louer les vélos, les réparer, et les hôtels qui acceptent, qui ont des parkings à vélo.
Alors, si on regarde vos ventes, si on regarde votre forum, est-ce que vous dites qu'en ce moment, le touriste français, il devient de plus en plus soucieux de son bilan carbone ?
Oui. Ouais, il y a un changement qui est très intéressant. Je vous entendais tous les jours, vous n'étiez pas très content des décisions gouvernementales, mais je pense que c'est à chacun de prendre son avenir en main, parce qu'après tout, c'est l'avenir de nos enfants. On leur doit tout et on doit laisser la terre aussi propre qu'on l'a eue, nous, quand on en a hérité. Quand je vois, par exemple, des tours opérateurs comme Voyageurs du Monde, qui, eux, se démènent comme des diables pour faire des compensations carbone, et c'est vrai, comme Madame l'évoquait...
Qu'est-ce qu'il fait comme compensation carbone, Voyageurs du Monde ?
Il plante des arbres. Alors, il gère des...
C'est-à-dire, il met des gens dans des avions, et pour compenser les émissions...
En plantant des arbres, mais c'est des très très grosses, c'est des très gros projets, à tel point que le patron a complètement basculé dans la permaculture. Et je vous annonce que l'année prochaine, il ouvre un magasin de permaculture avec son fils.
Bon, on l'invitera pour qu'il nous en parle. Ce qui veut dire, Philippe Gloagen, que vous, de votre position, vous voyez le secteur évoluer, commencer à évoluer, s'engager dans la transition.
Oui, vous savez, le grand débat récent qui consiste à dire « mais pourquoi prendre l'avion quand vous avez le train accessible ?» Eh bien, on voit déjà que les Français ont compris cette situation. La ligne Paris-Lyon, Air France, n'existe pratiquement plus. Et maintenant... Ils sont en train de s'interroger sur le Paris-Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est 2 heures. Eh bien, il n'y a aucune raison de prendre l'avion. Mais je vous dirais que on a beaucoup parlé aussi, très récemment, de la honte de prendre l'avion. C'est un mouvement qui est né, vous le savez, en Suède.
Vous l'aviez vu venir, ce mouvement ?
Oui, alors moi, je le savais, parce que, voyageant beaucoup... J'avais remarqué qu'en Suède, ils sont très luthériens, ils sont très à l'écoute des autres. L'entraide, c'est quelque chose qui fonctionne en Scandinavie. Et depuis 3-4 ans, j'avais entendu des Suédois dire que pour eux, l'avion, sur les lignes intérieures...
Et c'est la honte de prendre l'avion ?
C'était la honte, ouais. Ils appellent ça Flixcam. Flixcam, pardon.
Mais c'est la honte de prendre l'avion ou c'est le fait que le prix des billets a augmenté sur les vols intérieurs ? Ce sont les taxes aussi qui font bouger ?
Oui, je pense que c'est un peu les deux, c'est un peu mélangé, mais ils font un petit peu attention. Mais on élude un débat. Effectivement, l'avion, ça pollue, mais c'est quand même très, très utile. Évitez de prendre l'avion sur des lignes intérieures, bien que le Brest-Nice, si vous le faites en voiture, ça va coûter très très cher en carbone. Donc il y a tout n'est pas à jeter non plus, loin s'en faut. Par contre, on n'en parle pas, c'est la pollution des grands navires de croisière. On voit des monstres sur la mer et parfois pire que tout à Venise. Alors ça, déjà à Venise, ils sont en train de comprendre qu'il y a quand même un danger.
Ils se plaignent du surtourisme et de ces grands paquebots. On en a vu un qui percutait un quai il y a quelques jours, oui.
Mais ils utilisent un fioul lourd qui est ultra polluant, ce qui n'est pas le cas de l'avion. Le kérosène est un carburant extrêmement sophistiqué et léger. Par contre, il faut vraiment, vraiment s'interroger sur les bateaux de croisière qui sont quand même proches du scandale.
Qu'est-ce que vous envisagez, vous, pour le futur ? Est-ce qu'on va payer nos voyages plus chers ? Est-ce qu'à votre avis, le billet d'avion sera, par exemple, plus cher ?
Moi, je pense d'abord qu'on va partir moins loin. Alors ça tombe très bien, parce qu'il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres pour passer des vacances extraordinaires. Depuis très longtemps, nous on sait que nos guides du routard sur la France se vendent parfaitement bien.
Mais vous, nous on le sait, mais ce qui arrive ce sont les touristes asiatiques, Philippe Gohagen. Oui, les Français, ils vont peut-être partir moins loin, mais les Asiatiques... Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'il y aura un plafonnement des vols, par exemple, ou bien qu'on limitera la vitesse des avions? Comment est-ce qu'on va faire pour juguler cette montée des touristes asiatiques?
Nous qui avons eu la chance de pouvoir partir dans le monde entier, ce serait quand même injuste de se dire « Bon, bah allez, on arrête, on range les Gaules, et puis les Chinois, les Indiens, ils viennent plus. » Non, il faut que tout le monde ait la possibilité de découvrir Notre-Dame et les richesses de la France. Ça fait partie aussi de notre économie, puisque la France est quand même le pays du parfum, mais surtout le pays du tourisme.
Oui, mais alors où est la solution ? On dit ça, et puis en même temps, il y a cette pression du tourisme de masse, et puis il y a la protection de l'environnement. Ouais. Est-ce que le secteur est en train d'envisager ce futur qui sera contraint ?
Il y a une amélioration. Déjà, je fais confiance aux ingénieurs. Moi, j'ai une voiture ancienne qui a 20 ans que j'utilise pas, donc j'ai pas besoin vraiment de la changer. Mais mon beau-frère m'a avoué l'autre jour que sa nouvelle voiture consomme 2,5 fois de moins que moi, et pourtant elle était aussi puissante que la mienne.
Voilà.
Donc il y a un travail des ingénieurs, faut leur faire confiance. Les moteurs consomment moins. Et c'est un travail aussi de tout un chacun. Moi, hier, j'étais en Bretagne faire la promotion d'un nouveau guide du routard qui s'appelle Les Canaux en Bretagne. Et j'en suis ravi parce que c'est des balades.
Philippe Gohagen, juste une question. Justement, vous faites la promotion de livres papier. Et nous, ce qu'on voit arriver dans tous les secteurs, c'est le web. C'est les bookings, c'est le TripAdvisor et même les blogs des voyageurs. Est-ce que ça vous... impact.
Alors, moi, je ne suis pas inquiet. J'ai routard.com qui fait 6 millions de visiteurs uniques par mois, donc tout va bien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le guide papier, c'est quand même le produit le plus nomade. Il n'a pas besoin de batterie, il n'a pas besoin de fil pour l'accrocher. Il peut tomber dans le sable, il n'y a pas de problème. Et quand dans votre chambre d'hôtel, il y a un moustique,
donc vous croyez que
le guide papier est beaucoup plus efficace que votre tablette.
Donc, vous croyez que le guide papier va pouvoir coexister avec des acteurs massifs comme TripAdvisor?
Il n'y a pas de baisse. Attendez, TripAdvisor, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans qu'ils sont en traduction française. Moi, je les ai rencontrés. Ils m'ont avoué qu'ils ont fait, le premier truc qu'ils ont fait en France, c'est faire un testing entre le guide du routard et TripAdvisor. La conclusion, vous savez quoi? C'est que les clients consultent les deux. Donc, on n'est même pas concurrents.
D'accord.
Donc, on est ravis.
Question en quelques secondes, une question de curiosité, vous êtes venu avec. Le guide du routard de la visite d'entreprise et le guide du routard de l'investissement en bourse, ça marche les guides du routard éco?
Guide de la visite d'entreprise, d'abord j'ai fait le SCP,
une école de commerce.
Donc je suis ravi de rendre accessible l'économie à tout le monde. Guide de la visite d'entreprise 450 000, guide de la création d'entreprise, je l'ai fait avec les échos, c'est un carton fort. Et pourquoi les placements en bourse? C'est pas pour Pinot ni Bolloré, c'est pour tous les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des conseillers et qui peuvent avoir un petit peu d'argent à placer.
Philippe Gohagen, le fondateur, donc on a bien compris, du guide du routard. Merci d'être passé par France Inter.
Merci.
Une question de Laurence Sandrine Foulon. Laurence qui habite à Nantes. Sa fille Lou, 16 ans, cherche un boulot d'été. Beaucoup d'employeurs lui disent non parce qu'elle est mineure. Ont-ils le droit de refuser pour ce motif?
C'est vrai, les employeurs n'aiment pas trop recruter les moins de 18 ans. D'abord, ils pensent qu'ils n'en ont pas le droit, alors que travailler dès 16 ans est légal. On peut même commencer à partir de 14 ans, mais seulement dans l'entreprise familiale ou pour certaines activités, cinéma, mannequinat, compétition de jeux vidéo. C'est un peu plus simple pour les plus de 16 ans, mais ils doivent gagner la confiance des employeurs qui n'aiment pas jouer les chaperons. Et puis, dernier frein, certaines activités sont effectivement interdites aux jeunes. Un mineur peut travailler à la plonge en cuisine, mais ne peut pas servir au bar. Pas question non plus de travailler la nuit dans une boîte à gogo danseur, ni dans un sex shop, ça tombe sous le sens. Pas de boulot non plus à proximité d'agents chimiques dangereux ou de métal en fusion. Et même au supermarché, avant de porter des packs d'eau dans les rayons, il faut s'assurer que la charge n'excède pas 20% du poids droits du jeune. Ça demande une maîtrise infaillible de la règle de 3.
Bon, on imagine que la fille de Laurence, elle ne va pas chercher à soulever des briques.
Non.
Donc, dans quelle activité a-t-elle le plus de chances de travailler?
C'est assez classique. Il faut démarcher les commerçants du coin, leur déposer un CV. Pendant l'été, il y a les traditionnels cours de rattrapage scolaire, le babysitting et encore plus rémunérateur, le pet-sitting, la garde d'animaux. À la campagne, vous pouvez tenter la cueillette de fruits et légumes et évidemment le travail d'animation dans les colos. Mais pour ça, il faut le BAFA. Comme on est dans le nouveau monde, sachez qu'on peut être auto-entrepreneur à 16 ans si on est mineur émancipé ou si les parents donnent leur autorisation. Mais pour des petits boulots, je vous conseille, Lou, de rester dans le salariat de l'ancien monde. C'est toujours mieux contre les abus. Et puis les employeurs peuvent aussi trouver un intérêt à vous embaucher. Un jeune qui travaille en CDD pendant ses vacances scolaires n'aura pas droit à la prime de précarité de 10% de fin de contrat. Et les mineurs sont payés moins que le SMIC, 20% de moins quand on a 16 ans, moins 10% entre 17 et 18 ans. C'est un argument déloyal pour les jeunes à peine majeurs, mais il peut peser dans la balance.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Avant de se faire la bise, les débatteurs, un petit conseil de lecture pour l'été. Christian Chavagneux, Emmanuel de Chypre.
La bio de Frances Perkins, la femme derrière le New Deal de Roosevelt, c'est la ministre du Travail, celle qui a mis en place le New Deal. En fait, on la connaît pas. Voilà, j'ai un personnage intéressant.
Et donc, ça s'appelle comment et c'est publié chez qui?
Je sais pas.
Bon, on va le mettre sur le site. Merci, Christian. Emmanuel
Le
Chypre.
Le livre le plus important de l'année pour nous à BFM Business et pour rester sur nos sujets, le livre de Christian Gaulier sur la transition énergétique. Ça s'appelle Le climat après la fin du mois. Un livre génial d'un prof en écologie marine. Ça s'appelle Pour une révolution dans la mer. C'est Didier Gasquel. Et puis sur le débat qui a enflammé toute l'année sur les gilets jaunes, les fractures territoriales, oui, le livre de Pierre Veltz, qui est le meilleur livre de l'année, La France des territoires, défis et promesses.
Allez, un titre, une édition, Sandrine Foulon.
Alors moi, je vais prendre une BD, parce que c'est les vacances. Ça s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite. C'est de Inès Leroux et Pierre Vanhove. Et ça va vous intéresser, c'est sur la prolifération des algues vertes en Bretagne, avec une super enquête sur ces laboratoires qui ont laissé fuiter des produits très toxiques.
Le Magéco baisse le rideau tout l'été. Vous aurez des idées pour demain à 9h le samedi matin, c'est présenté par Valère Coréard.